Néron s'engagea à payer lui-même ses portiques et à livrer aux propriétaires des terrains nettoyés. Il ajouta des primes, selon le rang et la fortune, et fixa le délai dans lequel il faudrait achever les maisons ou les immeubles pour les obtenir. Règle d'urbanisme de l'empereur Néron, à Rome, dans les années 60, à la suite de l'incendie de 64. Tacite, Annales, livre 15.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
Dans l'Antiquité, Rome a bel et bien été une ville-monde. Combien d'habitants dans la Rome des 1er et 2e siècles? Les historiens évaluent entre 800 à 1000 habitants à 1 200 000 la population de la ville. Les meilleurs spécialistes aujourd'hui estiment que la ville est sans doute millionnaire, ce qui en fait, et de loin, la plus grande métropole de la Méditerranée antique. Alexandrie, la deuxième ville du monde méditerranéen romain, avoisine les 500 000 habitants, et Antioche tourne sans doute autour des 300 à 350 000 habitants. Donc effectivement, Rome est bien une mégalopole. Reste à savoir, tout d'abord, comment on a pu administrer une telle ville. Auguste, celui qui a fondé l'Empire, le Principat, a créé des préfectures destinées à administrer cette cité. La première préfecture est celle du prétoire, c'est donc le maintien de l'ordre. 10 000 hommes, la garde impériale, stationnés soit au palais, soit dans une caserne au nord de la ville, et qui permettent de maintenir l'ordre dans une ville effectivement régulièrement turbulente. Autre préfecture, ô combien dangereuse d'ailleurs pour son titulaire, c'est la préfecture de l'Annone. Le préfet de l'Annone était destiné à ravitailler la ville. Il avait l'immense charge de faire que cette ville millionnaire ne souffre pas de la faim, d'où une administration qui gérait l'arrivée des denrées de tout l'Empire. Troisième préfecture, celle de la ville. Le préfet de la ville était chargé de seconder l'empereur, en particulier lorsqu'il fallait rendre la justice. Donc le préfet de la ville était le bras droit judiciaire du souverain. Dernière préfecture, la moins prestigieuse peut-être, et pourtant celle qui est également fort compliquée, c'est la préfecture des vigiles. Les vigiles étaient chargés de combattre les incendies. Or, la Rome impériale a été régulièrement ravagée par les incendies. On connaît bien sûr celui de 64 sous Néron, mais on sait que sous Auguste il y a eu également, que la ville a connu un très grand incendie en 80, et donc les vigiles étaient destinés, alors non pas à combattre l'incendie avec un peu d'eau amenée du Tibre, mais plutôt à essayer d'isoler les foyers de feu pour éviter qu'ils ne se propagent dans les quartiers voisins. À côté de ces grandes préfectures, le pouvoir impérial a marqué la ville par des grands monuments. L'empereur a souvent résidé à Rome. Il résidait sur le mont Palatin. À la fin de la République, cette colline de Rome était une colline huppée où Cicéron, Marc-Antoine, Livie, la femme d'Octave, avaient leur villa. Mais elle est devenue véritablement la résidence du palais impérial à partir de la fin du 1er siècle. C'est l'empereur Domitien, qui régna de 81 à 96, qui a entrepris un gigantesque chantier que l'on peut encore aujourd'hui observer au travers des ruines majestueuses qui se trouvent sur le palais impérial. Le second siècle a vu l'amélioration de ces palais sous Trajan, Adrien, Antonin. Autre signe de la présence impériale, c'est que l'empereur offre des forums à sa population. César avait estimé que le vieux forum républicain était désormais un peu étroit pour la ville de Rome, et il avait construit donc ce qu'allait devenir le forum de César. Mais Auguste, Vespasien, Domitien, même si le forum de Domitien a été inauguré par son successeur Nerva, et Trajan ont doté la ville d'une extraordinaire lieu de promenade où les Romains pouvaient à la fois faire leurs courses, admirer la beauté des temples, et également assister à des procès, puisque des basiliques, comme la grande basilique Ulpia, permettaient de rendre la justice. Trajan a également signifié sa puissance en faisant édifier la colonne Trajane que les touristes à Rome voient encore aujourd'hui. Au sommet se dressait la statue de l'empereur, désormais il s'agit de la statue de Saint-Pierre. Ainsi, le pouvoir romain a essayé de marquer l'urbanisme de la ville, en le marquant dans sa topographie. D'autre part, il a bien fallu donner aussi des monuments que l'on pourrait qualifier de sociabilité, c'est-à-dire des monuments où le peuple romain pouvait se rencontrer avec le pouvoir et entre classes, mais classes sociales séparées. Ce fut le cas, par exemple, du Colisée. Le Colisée a été édifié dans les années 70, inauguré en 80, même si sans doute il n'était pas tout à fait terminé. Cet amphithéâtre d'environ 50 000 personnes permettait d'accueillir des jeux du cirque, ou des venationes, c'est-à-dire des chasses, ou des exhibitions d'animaux venus des confins de l'Empire, éléphants, tigres, lions, ours, que le peuple romain pouvait voir dans l'arène du Colisée. Mais il faut bien voir que la construction du Colisée était bien une volonté impériale de Vespasien de rendre ce terrain avec l'amphithéâtre au peuple romain, puisque Néron l'avait privatisé pour sa maison dorée. Il s'agissait bien, donc, d'un monument de sociabilité. Autre lieu de sociabilité, le grand cirque, le Circus Maximus. En bas du Palatin, il peut abriter peut-être 200 000 spectateurs pour assister cette fois-ci aux courses de chars. C'est véritablement, effectivement, un lieu de sociabilité. Toutes les classes romaines, non pas se mélangent, mais se côtoient avec des rangs réservés aux vestales, aux sénateurs, aux chevaliers, puis à la plèbe et aux étrangers. C'est un lieu gigantesque, dont il ne reste que la piste, mais les restes de cette piste marquent le côté impressionnant que devait avoir le grand cirque. Enfin, dernier exemple de ces monuments impériaux offerts au peuple romain, les grandes thermes. Trajan en avait construit au début du second siècle, à l'emplacement de la villa dorée de Néron, mais c'est essentiellement au IIIe siècle et au début du IVe, que se développent les grands thermes romains, les plus célèbres étant ceux de Caracalla et ceux de Dioclétien. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les grands thermes étaient quasiment gratuits. Le coût d'entrée dans les thermes était extrêmement minime. Certes, il y avait des horaires pour les femmes et pour les hommes, mais ces décrets interdisant donc la mixité étant régulièrement reproduit, ne devait pas être forcément toujours appliqué de manière très stricte. Autre question qui se pose aussi pour cette ville donc d'un million d'habitants, c'est la question du ravitaillement. Comment nourrir une telle ville? Surtout que le peuple romain est assez sensible à cette question. Et c'est là où le port d'Ostie prend toute son importance. Situé à une vingtaine de kilomètres de la ville, il permet, grâce au fleuve, le Tibre, de ravitailler l'Ourps, la ville. Effectivement, les bateaux venus de tout l'Empire arrivent à Ostie. Par beau temps, 3 jours entre Narbonne et Ostie. 1 semaine entre Gadès, c'est-à-dire Cadix, et Rome. Enfin, les grandes expéditions de blé venant d'Égypte, partant d'Alexandrie, mettaient environ une vingtaine de jours. Mais bien sûr, le problème était que la mer Méditerranée n'était pas navigable toute l'année. Il y avait un moment de la mer fermée entre la fin octobre et le début du printemps. Et c'est là où le préfet de la Nonne devait bien prévoir cette période afin de réserver et de stocker les denrées venues de tout l'Empire. Ne faisons pas du peuple romain seulement un peuple finalement de spectateurs des jeux et d'assistés par le pouvoir impérial qui distribuait la nourriture. Les historiens insistent désormais sur une économie locale faite dans les jardins et dans les propriétés qui bordaient la ville et qui faisait que Rome n'était pas seulement une ville de oisifs, comme on a longtemps cru, mais aussi une ville qui participait à sa propre économie. Quoi qu'il en soit, avec 1 million d'habitants, Rome devait être une ville absolument extraordinaire. Et on peut imaginer la surprise de ces provinciaux qui, arrivant pour la première fois à Rome pour rendre visite à un parent ou pour tout simplement profiter de la ville, voyaient cette mégapole 1 million d'habitants en arrivant soit par la Via Salaria au nord ou par la Via Appia au sud, et là les attendaient les merveilles du palais impérial.